France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, les débuts de Charles Aznavour, première partie. La disparition de Charles Aznavour a été relayée dans le monde entier et l'hommage national qui lui a été rendu le 5 octobre aux Invalides a mis en avant son attachement à la langue française, cette forme de patrie qu'il a faite sienne et magnifiquement représentée au-delà de nos frontières. Mais on a moins souligné qu'il était l'un des derniers témoins directs de tout un pan de l'histoire de la chanson française du XXe siècle. Plongé dès son enfance dans le monde du spectacle, il a connu l'âge d'or du music-hall des années 30 et 40, il a vu un grand nombre de chanteurs mythiques qu'il a admirés et dont il s'est nourri. Enfant de la balle, il a grandi dans une relative pauvreté et était, comme de nombreux fils d'immigrés, animé par un désir d'excellence, en somme faire mieux que les autochtones pour s'imposer dans la société française.
Les gares se ressemblent, tous les ports crèvent d'ennui, toutes les routes se rassemblent pour mener vers l'infini. Dans la cohue de l'existence se trouve toujours un passant qui n'a pas eu de ligne de chance et qui devint un émigrant. Regardez-le comme il promène son cœur au-delà des saisons, il traverse des murs de haine, des gouffres d'incompréhension, à chaque nouvelle frontière, espérant enfin se fixer, il fait une courte prière vers ce ciel qu'il a oublié. Regardez-le, il déambule sans jamais savoir où il va. Il marche comme un somnambule et les gens le montrent du doigt.
En écrivant les paroles de cette chanson en 1954, Charles Aznavour pensait forcément à ses parents arméniens. Ayant fui le génocide de 1915, où ils ont perdu une grande partie de leur famille respective, ils attendaient en France un visa pour partir aux États-Unis avec leur fille Aïda, née début 1923 à Salonique. Mais ils se sont plus à Paris et s'y sont fixés dans le 5e arrondissement. En mai 1924, ils ont un fils, Chanour Varinag Aznavourian, que la sage-femme surnomme Charles. Les deux enfants grandissent dans une ambiance artistique, car leur père Micha est baryton et leur mère Knar est comédienne. Micha, qui a raccourci son patronyme en Aznavour, ouvre un restaurant arménien rue de la Huchette où il engage un orchestre tzigane et chante lui-même en fin de soirée en s'accompagnant à la guitare caucasienne. Ses enfants sont donc baignés de musique. Aïda apprend le piano et Charles le violon. Tous deux participent fréquemment à des bals arméniens où Aïda interprète des chants traditionnels. Elle finira par les enregistrer bien plus tard, dans les années 50, suivant les traces de son frère, sur disque du Crutet Thompson.
Je suis né dans le métier parce que mes parents étaient des artistes arméniens qui jouaient au théâtre arménien finalement à Paris. Mon père avait donc comme second métier, il était cuisinier et ils avaient monté un restaurant. Et toutes les semaines, j'allais voir les représentations arméniennes. Puis un jour, quand il y a eu la crise de 1930, par là, mon père a perdu ses affaires et on s'est retrouvé avec un petit café rue du Cardinal Lemoine. Ce qui est important, c'est que en face, il y avait une école qui s'appelait l'école du spectacle. Et je suis rentré à l'école du spectacle parce que c'était plus pratique pour moi d'aller à l'école du spectacle que d'aller dans une école communale. Et arrivé là, mes parents étant artistes, on demandait des jeunes acteurs pour jouer ou pour danser ou pour chanter. Il y avait les auditions, je fais passer les auditions et j'étais engagé à l'âge de 9 ans. Et à partir de l'âge de 9 ans, j'ai jamais cessé de travailler dans mon métier.
Vous étiez plutôt comédien.
J'étais danseur et comédien. Un chanteur, ça s'est venu beaucoup plus tard.
Aznavour répondait aux questions d'Émile Noël sur France Culture en 1970. À 7 ans, Charles se fait donc inscrire à l'école du spectacle, rue du Cardinal Lemoine, dirigée par des sociétaires de la Comédie Française. Les metteurs en scène qui ont besoin d'enfants pour une pièce ou un film viennent régulièrement y prospecter. Charles débute ainsi dans différents rôles dans les grands théâtres de la capitale, y compris l'Odéon. À 11 ans, il présente un numéro de danseur caucasien au final d'une pièce au théâtre du Trocadéro. En 1936, la famille Aznavour déménage sur la rive droite, dans le Marais, alors très populaire, et plus précisément près du quartier juif où le jeune Charles se fera une nouvelle culture musicale. Outre les nombreux disques 78 tours achetés par son père Micha, Charles est un habitué des kermesses aux chansons, ces boutiques qui permettent, moyennant une petite pièce, de découvrir les nouveautés avec des écouteurs. C'est là qu'il entend un disque de Maurice Chevalier, « Donnez-moi la main », chanson créée en septembre 1935 dans la revue du Casino de Paris, Parade du Monde. Et c'est le déclic. À 12 ans, Charles sait que plus tard, il deviendra chanteur.
Sur le bord du lac Léman, un beau jour d'été, je la vis passer et sans hésiter. Voyant son regard charmant, je lui dis bientôt, voulez-vous faire un tour en bateau? Oh non, dit-elle en rougissant, j'ajoutais très prévenant, donnez-moi la main, mamselle, et ne dites rien. Mon canot vous semble frêle, donnez-moi la main. Seul sur la rive, vous semblez craintive, n'auriez-vous pas le pied marin? Donnez-moi la main bien vite, vous ne voulez pas. Redouteriez-vous, petite, de faire un faux pas? Lancez-moi votre ombrelle et quittez cet air inquiet. Donnez-moi la main, mamselle. Ça y est.
Avec sa sœur Aïda, Charles dévore les films de comédie musicale américaine. Il débute en 1936 dans de petits rôles au cinéma, comme La guerre des gosses de Jacques Darroy. En 1937, Charles rejoint sa sœur dans la troupe du chanteur méridional Prior et ses cigalounettes pour une longue tournée dans les villes de Provence. À deux, ils alternent piano, chansons, danse et même saut périlleux. Le grand chanteur Mayol les félicite et leur prédit un bel avenir. En 1938 et 39, Charles multiplie les expériences. Il participe à une revue du Palace, apparaît dans des films, chante à Radio 37, se présente à des concours de chansons qu'il gagne souvent. Mais il doit en plus enchaîner les petits boulots pour aider sa famille qui déménage à nouveau pour aller cette fois dans le 9e arrondissement. À l'automne 1939, Charles va tous les soirs au Casino de Paris pour entendre son idole Maurice Chevalier dans son nouveau tour de chant marqué par le climat de la guerre qui vient d'être déclaré. Il se compose de chansons comme « Ça fait d'excellents français » et « Paris sera toujours Paris ». Au début de l'occupation, la jeune Aïda parvient à se faire engager dans une revue du concert Mayol, tandis que Charles, qui aspire toujours à devenir comédien, décide à 16 ans de compléter sa formation. D'abord comme auditeur libre au conservatoire dramatique, puis dans plusieurs cours privés. Familier de la culture de la rue, il se passionne à l'époque pour le genre musette. Après avoir joué dans plusieurs revues, Charles ne peut plus continuer à incarner les enfants. À 17 ans, il s'oriente vers le tour de chant et parvient à se faire engager dans un célèbre cabaret de Montparnasse appelé le Jockey. Il reprend des succès du moment et intègre ses toutes premières chansons dont il a composé la musique sur des textes d'un jeune ami parolier nommé Jacques Jim. Charles s'inscrit ensuite au Club de la chanson présidé par Jean-Louis Marquet. Installé depuis peu rue de Ponthieu, cette pépinière de jeunes talents a été fondée par Julien, ex-membre du duo Gilles et Julien, dans le but de découvrir et former de nouveaux talents. Charles y fait la connaissance de Zappy Max, alors professeur de claquettes, et d'un jeune pianiste originaire de Beauvais nommé Pierre Roche, qui a 5 ans de plus que lui et un sens du rythme extraordinaire. Au sein du club, Pierre et Charles assurent bientôt des formations et règlent des numéros de duettistes. Parmi les habitués figurent de jeunes inconnus nommés Francis Blanche, Pierre Sacca, Darry Cole, Jacqueline François, Daniel Gélin, Micheline Dax et bien d'autres. Grâce à Jean-Louis Marquet, ces artistes en herbe trouvent quelques engagements en banlieue parisienne ou en province. Une amitié se noue entre Roche et Aznavour que ce dernier évoque au micro de Jacques Chancel sur France Inter en 1970.
Charles Aznavour, il y a eu ensuite ce duo avec Roche.
Oui.
Et ça a été important, je crois, dans votre vie, car ça a été le premier départ.
Oui, ça a été très important d'abord parce que Roche m'a apporté énormément de choses. J'étais essentiellement musette. Et Roche était essentiellement un garçon à la recherche du jazz. Je lui ai appris ce qu'était le musette, je lui ai fait aimer le musette, les valses, les tangos, et lui m'a appris à aimer et à connaître le jazz.
Aimer le musette pour vous, c'était vous rapprocher du peuple, ou bien c'était un sentiment très profond?
C'était rien du tout, c'était ma manière de vivre, c'était ma manière de penser. Je vivais là, c'était là où je me sentais le mieux. Je m'habillais avec ces complets invraisemblables qu'on portait à l'époque, pieds de poule, on appelait ça des étuis. J'avais des pattes très longues, des rouflaquettes. Et puis c'était un mode de vie qui me plaisait parce que je me sentais un petit peu dur, quand je ne l'ai jamais été.
Dans le fond, c'était les hippies de l'époque.
Ah oui.
Tour de chant. Martin Pennet, France Musique.
La musique nègre et le jazzote sont déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend et vous lâche plus. Oh, je suis swing, zazou, 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 zay, yeah. Je suis swing, oh, je suis swing, c'est fou. Que ça peut briser. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente d'un tas de petits trucs autour. Je suis swing, je suis swing, zazou, 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 zay, yeah. Je suis swing, oh, je suis swing, c'est fou ce que ça peut briser. Un spirit me l'a révélé. C'est le rythme qui fait ainsi m'emballer. Oh, je suis swing, zazou, 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 je m'amuse comme un fou.
Le panthéon des chanteurs de Charles Aznavour se compose à l'époque de Mireille, Jean Tranchant, Charles Trenet et de l'ancien comparse de ce dernier, Johnny S., devenu chef de file du mouvement Zazou grâce à la chanson que nous venons d'entendre, gravée fin 1938. Influencé par Pierre Roche, Charles Aznavour adopte, dans la mesure de ses maigres moyens, la mode Zazou. Pantalon étroit, long veston, haut col et cheveux frisottés. Tous deux amateurs de rythme, Roche et Aznavour décident en 1942 de monter un numéro où ils chantent à tour de rôle, car ils n'ont jamais songé à se produire en duo. Leur répertoire se compose de chansons de Charles Trenet et de succès swing du moment. Bien plus tard, interviewé par Radio-Canada, Pierre Roche se souviendra de leur début.
Moi j'avais 22 ans, 23 ans, je suis né en 19, donc j'avais 23 ans, et Charles, 5 ans de moins, il avait 16-17 ans. Et puis on l'a fait auditionner, c'est amusant, parce qu'on lui a dit, ben, chantez-nous quelque chose. Il nous a chanté, il y a des hiboux dans le beffroi du piano. Et alors, comme ça on s'est connus, puis finalement on a sympathisé, parce qu'il aimait les mêmes chansons que moi. Il y a Trenet qui nous dominait tous. Alors finalement, on a commencé à écrire un petit peu, à chanter quelques chansons des autres, et puis un jour on en a écrit une, et puis deux, puis trois, et puis voilà. Et après, un jour par hasard, moi j'ai organisé quelques spectacles en 1943, dans mon village, à côté de Paris. C'est un petit village de 1500 habitants, mais il y a une petite salle qui s'appelle la salle Jeanne d'Arc, et là on a organisé un spectacle. Et puis on avait engagé une petite fille pour annoncer le spectacle, la speakerine comme on disait. Et elle s'est trompée en nous annonçant, au lieu d'annoncer Charles Aznavour qui commençait le spectacle, elle a annoncé Pierre Roche et Charles Aznavour, les deux à la fois. Alors en coulisses, j'ai dit à Charles, viens, on va y aller tous les deux, on est chez moi ici, hein. On connaît tout le monde et tout le monde nous connaît. Hein, bon. Alors on est rentré sur scène et on a chanté les choses qu'on s'amusait à chanter au club de la chanson pour s'amuser, pour répéter, pour pratiquer. Et finalement, ça s'est bien passé. Et le surlendemain, dans une grande salle, alors à Beaumont-sur-Oise, qui est une petite ville à côté, une ville plus grande, également, je vais organiser un spectacle à cet endroit-là. Et j'ai dit aux gens, voilà ce qui s'est produit hier. On va recommencer avec Charles Aznavour. On va vous chanter quelque chose à deux voix. Si ça vous plaît, vous applaudissez. Si vous applaudissez beaucoup, peut-être vous serez à l'origine d'une carrière de duettiste.
Quand un facteur s'envole, 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 il voit le monde petit, les gens comme des fourmis. Le clocher du village, bien sage, l'école et la mairie, et la gendarmerie. Sa fiancée toute rose, dans un jardin, oh oh, comme une fleur éclose, au milieu du chemin. Alors vite il se pose et cueille cette rose qu'il emporte avec lui seul dans son paradis. Qu'il emporte avec lui seul dans son paradis. Et c'est ainsi, ainsi que finit la chanson folle du facteur qui s'envole. Et c'est ainsi, ainsi que finit la chanson folle du facteur qui s'envole. Du facteur qui s'envole, oh!
Une des chansons du film de Pierre Prévert, Adieu Léonard, sorti en août 1943, dont la vedette est Charles Trenet. Elle figure au répertoire des jeunes duettistes Roche et Aznavour, qui se produisent notamment dans des galas de bienfaisance pour les prisonniers. Durant la saison 1943-44, il commence à écumer les cabarets de la capitale et décroche quelques engagements dans des music-halls. Il tente aussi leur chance en proche province qu'il sillonne à vélo. Pierre Roche compose des musiques de chansons depuis 1942, mais pour se constituer un répertoire personnel, le duo a besoin de paroliers. Le premier réflexe est de s'adresser aux autres membres du club de la chanson, qui ne se montrent guère motivés, car ils ont plutôt l'habitude d'écrire pour des vedettes et pensent que le duo, pour l'heure quasi inconnu, ne leur rapportera aucun droit d'auteur. C'est ainsi que Charles est amené à écrire ses premiers textes, comme il le raconte à Luc Bérimont en 1956 dans l'émission « La parole est à la nuit ».
J'avais des camarades qui écrivaient des chansons. Et ces camarades avaient un défaut. Quand ils ne trouvaient pas la phrase voulue, ils mettaient la 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 la. Vous savez, en 1942, ça se faisait beaucoup. On écrivait par exemple, le ciel est bleu, la 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 la, la la la, la 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 la, il y avait toujours un la 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 la. Et ça me gênait, ça me choquait énormément. En plus, on faisait un numéro avec Pierre Roche. Et pour ce numéro, nous ne trouvions jamais de chansons. On avait un répertoire de 11 chansons, mais sorties de ces 11 chansons, on ne trouvait absolument rien. On chantait 4 chansons de Trenet, 2 chansons d'Ulmer, 2 chansons de Johnny S. et 2 chansons de Pierre Roche. Et puis je me suis mis en colère, parce qu'on ne voulait pas nous donner de chansons, c'était normal. Si maintenant quelqu'un vient me demander une chanson, je lui dis j'en ai pas non plus. Et j'ai voulu écrire une chanson. On s'est un peu moqué de moi, et puis on m'a regardé faire. J'ai écrit la chanson qui a été créée par Georges Ulmer, qui s'appelle « J'ai bu ». Et puis Pierre Roche et tous les autres, d'ailleurs, qui ne m'en voulaient absolument pas d'avoir écrit une chanson où il n'y avait pas de la 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 la, m'ont conseillé de continuer et m'ont même appris certaines choses que sans eux, je n'aurais su que bien plus tard.
Et la musique ?
Ça, la musique, je crois que ça découle des paroles. Il y a une cadence dans un texte, et dès qu'on réussit à avoir cette cadence, c'est-à-dire on écrit carré ou on n'écrit pas carré, eh bien on fait de la musique. Si on a quelques idées musicales, ça doit aller.
J'ai tout mis sur le tapis, à la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu, alors j'ai bu, j'ai dit les mots qui passaient dans mon âme, mais toi dans ta petite tête femme, t'as pas compris, j'ai déperdu, j'ai bu, et fou. J'ai senti malgré ma tristesse, dans la chaleur de mon ivresse, que tu mentais, j'ai bu. Pourtant je t'aimais d'un amour sincère, mais un jour, malgré mes prières, tu m'as quitté, n'en parlons plus. Alors j'ai bu vin, whisky, gin, tous les alcools me sont permis, ce qui me chagrine. Si des barmen je suis l'ami, des réverbères je suis l'ennemi. Sur le palier, le trou de serrure joue à cache-cache avec ma clé. Ma maison a une drôle de mine, tous les objets font Philippine. J'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu, j'ai dit les mots qui passaient dans mon âme. Mais toi, dans ta petite tête de femme, t'as pas compris, j'ai déperdu. J'ai bu et sous, j'ai vite oublié tes caresses. Je me plais bien mieux dans mon ivresse. Et loin de toi, je bois. Le trottoir n'est plus assez grand pour moi. En titubant, je crie à pleine voix, les flics sont des petits potes à moi. Oh là 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 là, j'ai bu. La radio joue un Ave Maria. Elle est marrante, cette chanson-là. Les paroles sont d'un Auvergnat. J'ai bu, je bois, je suis heureux et ce qui fait ma joie. Je ne penserai plus jamais à toi, tra-la-la-la. Et c'est pour ça que je bois.
Refusée par Yves Montand, cette chanson est finalement créée en 1946 par Georges Ulmer, lequel n'interprète habituellement que ses propres œuvres comme Pigalle, et lui vaudra le Grand Prix de la chanson en 1947. Sur leur lancée, Roche et Aznavour écrivent d'autres chansons qu'ils tentent de placer auprès d'interprètes connus comme leur amie Jacqueline François. Eux-mêmes se produisent dans les cabarets de Pigalle et dans ceux beaucoup plus chics du quartier des Champs-Élysées. Ils lancent notamment une nouvelle chanson de leur composition, Le Feutre Topé, dont les paroles loufoques relèvent surtout de la recherche rythmique. Un précieux document de juin 1948, capté au cabaret de Montparnasse, le College Inn, nous permet de les entendre tels qu'ils se présentent en scène.
Et maintenant, voici Roche et Aznavour, les deux duettistes fantaisistes qui, pour vous mettre dans l'ambiance et en gaieté, vont vous chanter. Qu'est-ce que vous allez chanter ?
Le Feutre Topé.
Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés, boulevard Raspa. Il suivait une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu. Elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des pas.
Elle lui plaisait fortement quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais se laissa courtiser car justement, eh bien,
elle aimait son feutre topé, son parler par onomatopée, aussi les cafés frappés avec des pailles. Elle était blonde platinée, elle était fortement parfumée, prenait un air détaché,
un air canaille, quand il lui disait chérie, vous êtes la femme de ma vie, même. Même il ajoutait ces mots gentils, petit papin, pouti 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 pouti.
Plus tard, ils se sont mariés, cela fit un ménage de cinglés qui se balade à pas combiner, boulevard au Raspa.
Il faut les voir
dans un café,
sur le comptoir,
buvant frappé, des cafés frappés
avec des pailles.
En janvier 1947, lors d'une émission publique Music Hall de Paris, présentée par Francis Blanche et Pierre Court à la salle Washington, à Paris 8e, Roche et Aznavour sont au même programme que Charles Trenet et Édith Piaf. Ils interprètent trois chansons et il se produit un événement déterminant dans le parcours des duettistes que Charles racontera au micro de Jacques Chancel sur France Inter en 1970.
Charles Aznavour, est-ce que vous vous rappelez le jour de votre première chance ?
Je crois que oui. Je crois que c'était à la salle Washington, je pense que c'est ça. On chantait avec Roche, il y avait dans la salle Piaf et Trenet. Et c'est la première fois que deux grands personnages de la chanson nous ont remarqués. Je pense que ça a été ça la première chance. Ça ne nous a rien apporté, mais que deux énormes personnages comme Piaf et Trenet nous aient remarqués, c'était déjà énorme. Et c'était la première chance. La première chance, en fait, finalement, ce n'est pas le premier succès. C'est la première fois qu'on lève les paupières sur vous.
Piaf et Trenet, qui passent en fin de programme, sont assis au premier rang. Édith applaudit la première, entraînant avec elle la salle entière. Après l'émission, elle invite le duo à venir chez elle. Là, ils font connaissance de l'entourage de Piaf, notamment de l'amie compositrice Marguerite Monod. Pierre se met au piano et Charles danse avec Édith. Une amitié se noue qui durera des années. Le lendemain, Édith propose à Charles que le duo parte en tournée avec elle. Roche et Aznavour passeront en levée de rideau avant les compagnons de la chanson et bien sûr Édith Piaf. Ils se produiront ainsi dans le nord de la France, en Suisse et en Belgique.
Un jour de mai où l'ennui me pesait pour vivre ma ville et sans ce qui m'oppresse. J'ai tout quitté sans chagrin, sans regret, puisque les voyages forment la jeunesse. Aux gens curieux, j'ai répondu, destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. Par hasard dans le train, il y avait une femme très bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était justement dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Et quand j'ai pris sa main parlant avec douceur, plus vite que le train allait mes battements de cœur. D'un ton charmant un peu moqueur, en un instant j'ai pris son cœur. Puis je proposais fort galamment, venez avec moi au wagon restaurant. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré, sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue, pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Chose bizarre, un matin par hasard, elle avait dû se lever du mauvais pied. Elle m'a dit pars et d'un seul coup, d'un seul, j'ai bondi du lit, je me suis habillé. Je l'ai quitté, j'ai rien perdu, destination inconnue. J'ai pris le premier train qui partait le matin. J'étais un peu peiné, je ne me sentais pas bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était revenue dans mon compartiment. Train en roulant faisait un vacarme infernal. Sur la banquette en bois, on était plutôt mal. Mais quand elle prit ma main pour se faire pardonner, tout contre mon épaule, elle s'est appuyée. J'étais si bien, je ne disais rien, intéressé me laissant griser. Je l'écoutais et je goûtais les mots très doux que tout bas elle disait. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré, sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue, pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Depuis ce jour nous ne nous sommes jamais quittés, elle l'homme si gentil qu'elle a su me garder.
Départ Express, une chanson du répertoire de Roche et Aznavour qui sera également enregistrée en 1947 par l'orchestre de Jacques Ellion. Entré dans le sillage d'Édith Piaf, le duo va connaître durant plusieurs années un certain succès avant que Charles se lance dans une carrière solo, comme nous le verrons dans la prochaine émission. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Célia Dufour à la technique, Éric Lancien à la réalisation, Marine Decamp pour les archives de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.